Le fait est que je pense qu'il y a différentes strates de professionnalisme et que Dusko Ivanović est un des plus exigeants dans ce secteur-là. Voilà, c'était évidemment tous des joueurs pros prêts à s'entraîner. En l'occurrence, en revanche, en France, personne ne les avait jamais fait travailler comme ça. C'est du niveau de Božidar Maljković en 93, hein, qui était connu pour ça, et d'ailleurs qui était finalement le mentor de Dusko Ivanović. Voilà, personne n'avait fait travailler ces joueurs-là de cette manière-là, en les poussant autant physiquement. Mais c'était aussi un jeune coach à ce moment-là, non pas d'ailleurs qu'il soit vraiment adouci aujourd'hui, parce qu'il vient d'être champion d'Espagne, et je crois pas qu'il soit plus tendre avec ces joueurs-là, mais je pense que c'est un jeune coach qui avait besoin déjà d'affirmer sa patte sur un championnat d'élite, parce qu'avant il coachait en Suisse, et le fait de les entraîner ainsi, c'était aussi une volonté pour lui de faire en sorte que ces joueurs-là ne soient pas distraits par l'angle judiciaire et l'angle médiatique. Voilà, c'est aussi des joueurs qui auraient pu facilement abandonner, qui auraient pu facilement, tout simplement, jeter l'éponge. Mais en les poussant ainsi dans cette exigence physique et en les lessivant mentalement, on peut le dire comme ça, je pense qu'il leur a permis de rester concentrés sur l'objectif sportif et voilà, d'avancer à cette fameuse formule match après match. Voilà, et l'important, c'est les 3 points. Voilà, c'est un coach qui a eu l'intelligence en tout cas de créer une bulle autour de ces joueurs-là, de les faire dégueuler à l'entraînement, mais pour que le soir ils rentrent chez eux complètement épuisés et qu'ils n'aient pas à penser à l'extra-sportif.
Ivanović, c'est quand même physiquement, c'est quand même ce qu'il y a de plus proche de la torture.
C'est vrai que c'est un niveau d'exigence un peu élevé, quelque chose qu'on ne connaissait pas trop. Et je crois que tout ça, le fait que Dusko était un coach très dur, le fait qu'on a tous dû renoncer à une grosse partie de son salaire pour continuer, je crois qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire tous ces sacrifices pour rien.
Des fois où on avait envie un petit peu de se plaindre ou de dormir, bon, on s'entraînait un petit peu 4 heures par jour quand même. Donc lui quand même a été le garant de certaines valeurs, d'un certain travail.
On s'est ressoudé encore plus.
Alors malgré tout, il existe des zones d'ombre, même encore aujourd'hui.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'avenant fait sur les contrats pour attester de cette baisse de salaire. Ils ont tout simplement pas été payés, hein. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, il y a encore des zones d'ombre, parce qu'en effet, ça a été compliqué de savoir ce qu'il en était entre... Beaucoup de joueurs ont menacé de partir au Prud'homme. Dusko Ivanović a menacé de partir au Prud'homme. Bruno Ham, lui, est parti au Prud'homme. Voilà. Je sais que David Frigou a négocié à l'amiable pour récupérer certaines de ses indemnités. En fait, pour la plupart, ce sont des joueurs qui avaient signé pour plusieurs années. Voilà, pour 2 ans de contrat, pour 3 ans de contrat. En l'occurrence, ça a été pour la plupart qu'une seule année. Et voilà, ils ont finalement, c'est compliqué en tant que sportif parce qu'ils s'étaient engagés pour plusieurs saisons et ils ont déjà été très peu payés au cours de cette année-là. Et en plus, ils ont perdu l'argent des années suivantes. Donc, sur ce qu'ils ont tous récupéré, les uns et les autres, à la fin de l'année, c'est compliqué, ça a été compliqué de le savoir. On n'a pas de traces écrites en effet, on a des souvenirs assez évasifs des uns et des autres, pour différentes raisons. Ce qui est sûr, c'est que pour la plupart, ils ont tous perdu leur droit à l'image, donc c'était une manière de contourner les règles salariales, etc., à travers des opérations promotionnelles, notamment des collectivités. Ça, les joueurs les ont perdus. Ce qu'ils ont récupéré en termes financiers, c'est vraiment impossible de le savoir, mais honnêtement, là-dessus, on peut leur faire confiance. Ils ont dû toucher au maximum pour certains 50% de leur salaire, pour d'autres 30% de leur salaire, vraiment. Après, ils ont eu l'intelligence de continuer, d'arriver au terme de cette saison-là, et finalement de compenser pour la plupart cette perte de salaire-là en allant ailleurs dans d'autres clubs, parce qu'ils avaient gagné aussi un autre statut. Mais c'est vrai que ça reste une zone d'ombre énorme, les sommes exactes dépensées octroyées aux joueurs en fin d'année. On ne le sait pas aujourd'hui.
L'homme du match est à nos côtés, Marcus Brown. Quelle revanche pour vous, Marcus, qui est un peu moins bien ces derniers temps. What a revenge for you. You were a little bit down these few games.
No, a lot of people turned their back on me. They said I wasn't a good player. I mean, I came out and I had to show everybody who Marcus Brown is and why I'm the MVP.
Alors moi, je voulais montrer à tout le monde, tous ceux qui ont dit du mal de moi ces derniers temps, que je mérite d'être le MVP. Je l'ai montré aujourd'hui pour une finale. For the key games like Malaga and today, you are always here. Pour tous les matchs clés, vous êtes présents.
That's what kind of player I am. That's why they brought me to Limoges. All I'm doing is my job. And like I said, I thank my teammates for staying behind me. And a lot of people said that Marcus was finished. He was ready to go home. But I'm here and I show where I am today.
C'est mon boulot de prendre l'équipe, d'être un clutch player, toute l'équipe est derrière moi, c'est moi qui en ai l'équipe, tout le monde, les mauvaises langues disaient que j'étais déjà fini pour la saison, que je ne pensais qu'à rentrer à la maison, j'ai montré aujourd'hui le contraire. Qu'est-ce que vous allez faire du ballon? What are you gonna do with the ball now?
It's my trophy, it's mine, I'm taking it home to my mom, and this is a souvenir to remind me of when I was in France.
Thank you very much.
Alors moi j'ai fait Carl Thomas et Marcus Brown, François a fait Harper, Williams. Alors Carl Thomas d'ailleurs pour parler de lui, parce que c'est lui qui a été coupé et qui n'a pas gagné, hein. Je ne m'attendais pas du tout, enfin déjà ça a été un de ceux qui a été le plus difficile à retrouver, j'ai mis à peu près 5 mois à retrouver sa trace. Et à ma grande surprise, il était ravi de parler de cette année-là alors qu'il a été viré. Mais déjà lui c'est un joueur qui avait pris énormément de plaisir à côtoyer cette équipe-là, il était même resté un peu plus longtemps tout simplement pour assister au début de Marcus Brown et puis pour rester dans cet environnement-là. Donc c'est un joueur qui a énormément apprécié tout simplement cette expérience, mais qui a aussi compris pourquoi il était remplacé, parce que Marcus Brown, tout simplement, voilà, c'est difficile de faire aussi bon que lui. Par la suite, il s'est vraiment installé comme un des meilleurs joueurs de l'ensemble du continent européen. Et justement, pour parler de lui, Marcus, il est vraiment arrivé avec une mentalité de mercenaire, c'est-à-dire voilà, il aurait pu revenir à Pau, avec lequel il avait gagné un titre de champion 2 ans avant, mais finalement il a préféré l'argent Limougeot. Donc voilà, il est avant tout venu pour toucher un chèque, voilà, je pense pas qu'il s'en cache, mais en revanche une mentalité de mercenaire du côté financier, mais pas pour autant en termes d'équipe. Voilà, c'est un joueur qui s'est tout de suite intégré collectivement, qui a respecter aussi les égos des uns et des autres, en s'adaptant aussi à Yann Bonato, etc. Et puis en fait, finalement, naturellement, par son talent, ce sont les autres qui se sont adaptés à lui. Mais c'est un joueur qui a eu l'intelligence de continuer de faire tourner le ballon, d'intégrer les autres dans les schémas offensifs, de ne pas tirer que la couverture à lui. Et aujourd'hui, c'est 20 ans plus tard, alors qu'il a quasiment, on peut dire qu'il a tout gagné en Europe, même l'Euroleague, donc la Coupe Courage, c'était que la troisième Coupe européenne, ça reste une des années qu'il a le plus marqué et qu'il a le plus apprécié humainement parlant, et c'est vraiment quelque chose qui raconte avec énormément de plaisir. Il se souvient aussi d'une époque où voilà, il admire les joueurs, même les joueurs français contre lesquels il a joué, cette génération-là des Rizachet, des Laurent Forest, etc. Ou même du jeune Tony Parker qui à l'époque jouait peu à Paris. Mais voilà, c'est un joueur qui maintenant a à peu près 50 ans, mais qui est devenu le meilleur joueur d'Europe et qui garde toujours un souvenir particulièrement ému de son passage à Limoges.